RMC.
À thème, il a mon portable, qu'il m'appelle.
Faut arrêter de se prendre pour Calimero, ça suffit, ok? Allez, ciao, bonne soirée.
Ici c'est Mars, surface rouge, atmosphère tendue volcanique, de la zig automatique de Mac.
After Marseille,
Nicolas Villas.
Quel plaisir de vous retrouver dans votre podcast After Marseille. On vous attend avec vos coms, vos likes, vos retours. On s'abonne d'ailleurs à la chaîne, on n'oublie pas. Et vous les fidèles, vous les attendiez cette semaine encore. Notre correspondant à Marseille, Flo Germain. Salut Flo.
Salut Nico, salut à tous.
Et il est de retour, le patron des sports de la Provence, Alexandre Jacquin. Salut Alex.
Salut Nico, salut Flo, salut à tous.
Et bonne année, hein, on peut encore le dire.
Salut Alex.
Meilleur vœu.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2025, Alex?
J'aurais aimé un parcours en Coupe de France, quoi, parce que c'était bon pour l'OM, c'était bon aussi pour les ventes du journal, quoi. Mais bon, malheureusement Lille,
donc l'année 2025 est déjà foutue, si j'ai bien compris. On est le 20 janvier, c'est mort.
Non, mais je parle à titre olympien. Ouais.
En tout cas, les gars, je raconte une petite anecdote avant de se lancer sur notre sujet. Lors du match OM Strasbourg que je commentais au Vélodrome, il y avait un supporter de l'OM à quelques mètres devant moi. Là, il y a des places juste en dessous de la tribune de presse. Et qui me fait un signe du pouce, bon, qui reconnaît que c'est RMC, qui me reconnaît, qui me fait un petit signe du pouce et qui prend son téléphone et il se met sur l'appli After Podcast After OM et il me la montre, il fait au top les gars, au top.
Continuez. C'est sympa.
Voilà. Donc, non mais j'ai apprécié, tu vois. Alors il était, je pense, avec sa compagne.
Ah, je crois que tu allais dire il était bourré. Bien. Est-ce que c'est possible mais aussi?
Non, il avait l'air très sympa, donc je le salue puisque ça doit.
Comment
être
il s'appelle?
Ben je sais pas.
Bah c'est là qu'on voit que t'aimes pas les gens.
On était en plein match. Voilà. On était en plein match. Mais si, on était en plein match au commentaire. Mais je lui ai fait un petit signe, merci.
Est-ce que
mais
c'était un petit gars avec une moustache, avec un petit accent espagnol ou pas?
Non. C'était un supporter Pablo. Ouais, moi, je ne la reconnais que comme ça. Mais en tout cas.
Mais on vous embrasse toutes et tous.
On est écoutés, on est suivis et ça fait plaisir.
Bien sûr, ça fait plaisir. Et cet épisode sera consacré à Neil Maupay. Avec cette question, doit-il être un titulaire indiscutable à l'OM? Alors, titulaire, il l'était lors du dernier match contre Strasbourg, justement, même s'il a cédé sa place au jeune Robinho Vaz à la pause. Titulaire, il l'est même d'ailleurs sur les 11 derniers matchs de l'OM. Au début du mois, Roberto De Zerbi avait été très élogieux à l'égard de son attaquant.
Maupay, c'est le joueur parfait. Parce que tout le monde voudrait avoir dans son équipe un Maupay. Voilà, méchanceté qu'il met dans le jeu, pour sa passion, son intelligence footballistique. C'est pas un joueur qui a 20 buts dans les pieds, mais si on voit entre les buts, les passes D, son engagement dans les actions déterminantes, si on voit la personnalité qu'il a, son caractère, la leadership aussi qu'il a, c'est vraiment un joueur que je voudrais toujours avoir et que j'aurai jusqu'à ce que je parte d'ici. Tant que je serai ici, je voudrais un joueur comme lui, qui joue, qui ne joue pas. C'est un joueur qui est positif.
Voilà, De Zerbi dit tyrambique vis-à-vis de Maupay. C'était avant le match contre Strasbourg. Je le disais, il a sorti Maupay à la pause contre Strasbourg. Et à la fin, De Zerbi explique et dit « Je fais jouer ceux qui le méritent le plus. L'absence de Wai et le manque de lucidité de Maupay, qui est l'un de mes joueurs préférés, m'ont conduit à faire entrer Robinho Vaz en jeu. » Flo, De Zerbi, il assume alors complètement sa préférence pour Maupay. C'est rare les entraîneurs qui font ça quand même.
Au moins, il est sincère, c'est clair. Et malgré le fait qu'il adore Neil Maupay, s'il sent qu'il n'est pas dans un bon soir, c'était peut-être le cas sur la première période contre Strasbourg, il prend une décision et donc il n'est pas totalement obnubilé par effectivement l'a priori ultra positif qu'il a par rapport à Neil Maupay. Donc oui, il assume cette préférence. Il a rapidement, je pense, compris que Maupay allait doubler Wai, justement, parce qu'il le voit mature, il le voit malin, il le voit costaud. On va en parler, mais dans le système de jeu qu'il a, le profil de Neil Maupay est très précieux. Et puis ce qui est frappant à l'entraînement, j'y étais encore là juste avant d'enregistrer ce podcast, un Neil Maupay, il s'est fondu à une vitesse éclair avec les leaders de ce vestiaire, hein. Il est toujours avec les Rongier, les Rabiot, les Heuillière. Enfin, on sent que voilà, c'est un bonhomme important dans le vestiaire, et je pense que ce leadership il fait du bien aussi à Roberto De Zerbi, il l'a très rapidement compris.
Alors, on l'a déjà évoqué dans d'autres épisodes de ce podcast, mais on sait que la notion de caractère est chère à De Zerbi. Est-ce que Alex Maupay, avec ce côté chambreur, accrocheur, qui plaît d'ailleurs à l'italien, il a le caractère pour s'imposer à l'OM?
Il a surtout un côté collectif. qui est apprécié par De Zerbi, on le voit sur le terrain. On sent que c'est ce type de joueur qui est là et qui donne tout sur le terrain, avec qualité et défaut, parce qu'on peut aussi parfois se dire qu'on attend davantage d'un numéro 9, sauf qu'il a le profil pour respecter les consignes de Zerbi dans ce système de jeu-là. Et ce système de jeu-là fonctionne en ce moment. Eli Wahi n'avait pas du tout ce profil-là, quoi. Il était un peu immature, quand Nil Mopé, lui, a du recul, arrive à chambrer ses adversaires sans pour autant disjoncter à tous les matchs comme il pourrait le faire, ça pourrait arriver. Il a un état d'esprit collectif. Je vais pas aller jusqu'à dire que des fois il est chambreur comme Gignac, mais il a un petit côté qui plaît aux Marseillais quand même. Voilà, il a ce côté-là, ce côté sur les réseaux sociaux, c'est marrant. Voilà, il a ce côté qui plait aux Marseillais aussi.
Alors au milieu de temps d'éloge, hein, Roberto De Zerbi affirme aussi que Mopé, c'est pas un attaquant qui va marquer 20 buts par saison. Cette saison, Mopé affiche 3 buts et 7 passes dès avec l'OM. Ça en fait quand même, après Greenwood et Luis Enrique, le Marseillais le plus décisif. Mais factuellement, sur les 5 dernières saisons, Nil Mopé, c'est au mieux 10 buts inscrits sur un même exercice. Mopé estime-t-il qu'il doit être plus décisif? Autocritique de l'attaquant marseillais.
Bah pour moi, l'important en venant ici, c'est toujours d'aider l'équipe et d'essayer de finir le plus haut possible en championnat, une qualification en Ligue des Champions. Et c'est vraiment dans cet esprit que je suis venu. Après, bien sûr qu'au niveau des buts, je peux mieux faire et je vais mieux faire. Et ça, je le sais parce que je l'ai fait par le passé et j'ai toujours les mêmes qualités, mais après mon rôle aussi est différent dans l'équipe, c'est ça qui est à prendre en compte, et des fois les stats c'est bien, mais ça dit pas tout, il y a un contexte à ça, et en fait vous connaissez le foot, mais nous ce qu'on essaye de mettre en place, voilà, mon rôle n'est pas celui d'un attaquant à rester devant et l'équipe joue pour moi entre guillemets, j'ai d'autres devoirs sur le terrain.
Alors avant d'affronter Nice, hein, Mopé, c'est un but sur ses 6 dernières apparitions. Est-ce qu'Alex, niveau stat, Mopé, il est trop léger pour l'OM?
Ben non, parce que, en fait, comme je disais tout à l'heure, alors toute proportion gardée, il a un peu un rôle, le même rôle qu'avait Alexis Sanchez avec Tudor, là. C'est-à-dire qu'il est neuf, mais c'est pas ce qu'on attend d'un neuf. J'ai l'impression que c'est pas le finisseur qui attend le ballon dans la surface. C'est pas du tout ça que lui demande de Zerbi. Et c'est pour ça qu'il entre bien dans ce profil-là. Donc on peut pas on va pas pouvoir lui reprocher maintenant de pas beaucoup marquer. Si justement les consignes données par de Zerbi sont de participer grandement au collectif. Comme le faisait Alexis Sanchez d'ailleurs sous Tudor. Parce qu'on reprochait à Sanchez de pas beaucoup marquer aussi à l'époque. Mais bon, il a manqué des buts. Mais on lui reprochait de jamais être dans la surface. On peut pas. Ça fait partie d'un schéma de jeu et d'une stratégie du coach, et on ne peut pas lui reprocher ça aujourd'hui. Je pense qu'il est exactement dans le schéma défini par De Zerbi, moi.
Alors, c'est vrai que le juge de paix est très souvent dans le foot, et surtout le foot moderne, Flo, c'est aussi les stats. Est-ce qu'il ne risque pas finalement d'être aussi jugé là-dessus, même si De Zerbi n'a pas l'air de s'en soucier de ça?
Il s'en soucie quand même un peu, forcément. Alors il connaît après les qualités de Mopé, tu l'as dit, il attend pas de lui qu'il mette une quinzaine ou une vingtaine de buts par saison. Il sait qu'il est précieux de par son profil et en plus dans ce système de jeu. Donc il a un côté collectif qui est très important pour l'équipe. Après, et j'ai aimé la déclat de Nil Mopé, il sait que dans un club comme l'OM, dans les matchs à pression où parfois ça va se jouer à un petit but, et encore plus si à l'avenir, voilà, l'OM en veut toujours plus et se doit de gagner tous ses matchs et se doit d'aller inquiéter les gros cylindrés et imaginer l'année prochaine s'il y a Ligue des Champions, etc. Peut-être qu'à un moment donné, il va falloir que Marseille ait aussi un attaquant qui ait vraiment ses statistiques, parce que un club comme l'OM a toujours bien fonctionné aussi quand il y avait un attaquant comme Aubameyang. Alors Alexis Sanchez, c'est vrai qu'il n'avait pas un profil à mettre 30 buts, mais il avait quand même ce juste milieu de faire briller les autres, d'être, je trouve, exceptionnel dos au jeu et malgré tout de planter sa petite quinzaine de buts. Donc ça restait quand même une réussite. Je pense que Mopé, voilà, à un moment donné, il faudra peut-être pas lui faire porter la responsabilité et le poids de toute l'attaque marseillaise à se dire il faut qu'il mette sa douzaine ou sa quinzaine de buts. Il n'y arrivera pas. Donc c'est pour ça que la question se posera tôt ou tard, et je pense très tôt, de lui apporter aussi un concurrent qui soit plus serial buteur que lui ne l'est.
Alors, j'allais regarder un peu, moi, les stats de Mopé. Là où il a été le plus prolifique à Brighton et Brentford, il y avait un système avec deux vrais attaquants. Est-ce que, Alex, le système de Zerbi à une seule vraie pointe est le plus indiqué pour que Mopé soit plus décisif, justement ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de système, d'animation ou...
Non, mais en fait, mais là, je rejoins Flo, parce qu'en fait, Mopé, c'est plus un 9,5, quoi.
Ouais. Justement, il ne faut pas quelqu'un avec lui, c'est pas le tueur des surfaces.
Ouais, mais alors faudrait en fait aujourd'hui le quelqu'un à lui, ben c'est un peu Greenwood qui marque des buts, qui est un peu foulé, qui a un système de jeu qui lui va bien. Le problème c'est que si tu changes de système de jeu pour t'adapter à Mopé, tu vas créer d'autres défauts dans le collectif que justement De Zerbi a corrigé en passant à ce système-là avec Rabiot, Greenwood, Mopé. C'est ça en fait. Je pense que pour tirer le meilleur de Mopé, il faudrait peut-être jouer avec deux pointes, avec Mopé qui tourne autour d'un attaquant, mais tu repars à zéro, quoi. Tu peux pas faire ça aujourd'hui dans l'OM actuel, ben, d'autant que à part Robinho Vaz et Mumbanya, ben il y a pas d'autres attaquants. Ro peut jouer aussi en pointe, mais je vois pas l'OM passer ce système là.
Tu fais bien de citer Greenwood, Alex, parce que honnêtement, je pense que ce serait un vrai problème si il n'y avait pas autour de lui, et là on parle de Greenwood, on peut parler de Luis Enrique aussi, hein, qui a des belles stats, mais parlons que de Greenwood, qui est à ce moment meilleur buteur de Ligue 1. Donc Greenwood, je touche du bois pour lui, et on peut quand même logiquement penser que si tout va bien, il va dépasser la barre de la vingtaine de buts cette saison en Ligue 1. Donc à partir du moment, ça fait penser un peu à Florian Thauvin, qui n'était pas un numéro 9, mais qui était tellement mis en valeur dans un système de jeu et tellement en forme qu'il arrivait à claquer un nombre de buts qui est normalement réservé presque à l'attaquant de pointe. Donc tu as raison de le citer, tu as raison d'insister sur le système, et quelque part Mopé, en faisant briller les autres et en s'enlevant cette responsabilité des stats, je pense que ça passe à partir du moment où à côté de lui, bah, tu en as un qui justement lui est plutôt très adroit et est en train de réussir, en tout cas en termes de statistiques, quelque chose d'intéressant, quoi.
C'est juste, il fait briller Greenwood aussi, Mopé. Ce système-là fait briller Greenwood, et Mopé participe à ce système-là, en fait. Parce que si tu remets Greenwood sur un côté avec deux attaquants ou un 4-3-3, où tu lui demandes à refaire un peu de travail plus défensif, on l'avait vu contre le PSG à l'aller, enfin, il était passé complètement à travers de son match, tu vas peut-être perdre tout ce que t'apporte Greenwood offensivement. Donc en fait, Mopé, il est là pour faire briller Greenwood aussi. Hein.
En tout cas, avec 919 minutes jouées depuis le début de saison, Neil Mopé, le troisième offensif le plus utilisé par Roberto De Zerbi, toujours derrière Greenwood justement et Luis Enrique. Au moment où il arrivait à l'OM l'été dernier, à la toute fin du mercato estival, De Zerbi était déjà très élogieux à son encontre, mais il rappelait la hiérarchie alors établie.
C'est
un joueur qui, niveau caractère, correspond à l'OM.
Un joueur qui...
J'aimerais avoir plus de joueurs comme lui, question caractère. Il a marqué des buts en Première Ligue. Je le connaissais avant de venir en France.
Lo conoscete perché ha giocato anche in Francia. Gli ho parlato, lui sa il ruolo che viene a fare.
On a parlé et il sait quel sera son rôle ici. On mise sur Wayi, il sait qu'il part derrière lui. Mais après, le terrain compte plus que l'idée de l'entraîneur.
Il campo da calcio conta più delle idée dell'allenatore.
Voilà, 6 mois plus tard, Mopé compte quasi le double du temps de jeu de Wayi. Et il y a quelques jours, toi, notre Flo Germain, tu demandais à Neil Mopé si son profil n'était pas plus adapté que celui de Wayi dans le système, le jeu prôné par De Zerbi. La réponse de l'ancien niçois.
Bah, c'est une bonne question, mais après, je pense que c'est une question aussi d'équilibre et de ce que recherche le coach. Je pense qu'actuellement, dans ce que le coach nous demande de faire, il pense que mes qualités et mon profil est plus adapté à l'équipe. Voilà. Après, Eli, en ce moment, il est blessé, mais je l'ai déjà dit auparavant, ça va vite dans les deux sens. Au début de saison, moi, j'étais sur le banc, j'étais le numéro 2 de Eli, et là, en ce moment, je joue un peu plus. Et puis, l'équipe tourne bien aussi, on gagne des matchs, donc c'est aussi compliqué de changer pour le coach.
Bon, Flo, Mopé a renversé la hiérarchie des attaquants. D'une certaine façon, c'est lui qui a poussé Eli Wayi vers la sortie.
Écoute, c'est, je pense, Eli Wayi tout seul qui s'est mis un peu hors jeu. Alors, c'est vrai que la concurrence avec Mopé a forcément contribué à ça, mais il a quand même eu sa chance. Ça peut paraître fou de dire ça en 5-6 mois, mais faut pas. quand même rappeler que Roberto De Zerbi, effectivement, t'a passé le petit son. Au départ, il l'avait clairement installé numéro 1, Eli Wahi. Il le citait, il le protégeait à chaque fois, c'est-à-dire que c'était même devenu un petit sketch. À chaque fois qu'il était questionné, Roberto De Zerbi, sur Neil Maupay, il parlait 10 secondes de Neil Maupay et il rappelait qu'il y avait aussi Wahi qui comptait sur lui. Et puis voilà, le temps a fait son œuvre et peut-être que, bon, en termes de performance sur le terrain, c'est sûr et certain, mais peut-être qu'ils n'ont pas décelé en Wahi cette capacité à changer et à évoluer et à avoir le mental ou tout simplement la qualité nécessaire pour s'imposer. Donc je pense que Maupay ou pas Maupay, l'OM, les dirigeants se sont rendus compte, surtout Roberto De Zerbi, que Wahi ça allait pas le faire. Et d'ailleurs c'est une politique qui est assumée en interne à Marseille. Ça peut paraître un peu brutal, mais ils ont préféré acter vite certains échecs parce que voilà, comme ça tu peux un peu récupérer ta mise de départ. Ça a été le cas avec Wahi, vendu à Francfort, grosso modo le prix que Marseille avait investi. Et puis l'OM se dit finalement c'est peut-être mieux pour tout le monde, plutôt que de garder un joueur qui est devenu indésirable, on va le faire partir. Donc ce cas Wahi, je pense qu'il faut le prendre indépendamment de ce qu'a montré Neil Maupay. Maupay, il a fait son taf, il n'était pas venu pour être numéro 1 au départ, et puis finalement un peu parce que Wahi aussi ne donnait pas satisfaction, bah lui il a réussi à s'imposer très clairement.
Alex, t'es d'accord avec ça? C'est plus Wahi qui s'est entre guillemets saboté lui-même plutôt que Maupay qui l'a éjecté, on va dire, du groupe.
Disons que je crois que les dirigeants n'ont pas vu, comme Flo a raison, dans les capacités psychologiques, mentales, une possilité de rebond d'Eli Wahi dès le premier match contre Reims, où il fait une première mi-temps catastrophique, en fait, deux premiers matchs au Vélodrome, hein, où il rate quatre occasions, en fait. Il peut y avoir 4-0 à la mi-temps, et en fait, il en rate quatre. Et là, on se dit, bon, attention, là, successeur de Aubameyang, poste de numéro 9 à l'OM, c'est très compliqué. Pression du grand attaquant, le fameux grand attaquant depuis l'armée courte, c'est très compliqué. C'est très compliqué d'être l'attaquant de l'OM. Il faut être costaud. Et là, on se dit, voilà, il est jeune. Ça s'est mal passé à Lens, enfin pas super bien passé à Lens. Il va falloir vraiment que ce soit un phénomène mentalement. Bon, et apparemment, il l'a pas été. Et au fil des semaines, c'est lui qui a perdu sa place. C'est plus lui. Moi, pour moi, c'est plus lui qui a perdu sa place que Maupay qui l'a gagné. Maupay, il a profité du fait que Wahi était très décevant, et a profité du fait d'avoir un profil totalement différent qui s'est adapté à ce que De Zerbi a voulu mettre en place ces derniers mois. Et alors qu'Eli Wahi, à partir du moment, mon analyse, c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas de profondeur, où il n'y avait pas un Harit derrière pour le lancer, ou même un Koné, peut-être c'était prévu Koné au départ, ça pouvait pas fonctionner. Il pouvait plus s'adapter à ce système-là. Donc sportivement, il était plus adapté au système. En termes de, je ne veux pas de méchant, mais en termes d'attitude, pas d'attitude, mais ils n'ont pas décelé en lui le joueur qui allait rebondir et qui allait.
Il n'y a pas le fameux caractère, quoi. Si cher, voilà, à De Zerbi.
Exactement. Voilà, c'est ça. C'est pour ça. Et c'est vrai que, ben voilà, quitte à ce que ce soit un échec, il vaut mieux que ce soit acté, que ce soit rapidement, au bout de 4 mois, c'est un échec, et il y a une offre, et il repart, et l'OM ne perd pas d'argent, plutôt que se dire on va se le traîner pendant 2 ans, on va le prêter. Bon, il y a une opportunité, il a quand même une cote encore sur le marché des transferts parce qu'il est jeune et parce qu'il avait un potentiel. Bon, ben peut-être pour lui que ce sera beaucoup mieux à Francfort et qu'il explosera, et tant pis, il n'était pas fait pour l'OM, c'est comme ça.
Et pour finir sur Wahi, Nico, Alex, je crois que c'était autour du mois d'octobre, enfin en tout cas à cette période-là, quand Marseille avait eu des résultats un peu délicats contre Paris, Auxerre, au Vélodrome notamment. Il avait commencé un peu à citer des noms. Il avait dit, Roberto De Zerbi, vous savez, en termes de mental, il y a des joueurs comme, alors il avait cité Jonathan Rowe, Lilian Brassier, il avait cité aussi Wahi, il avait cité Koné. Et en fait, Wahi, Koné, alors les profils sont différents, les dossiers sont pas totalement similaires, mais malgré tout on retrouve peut-être ce profil qui au final, en termes de mental, d'exigence, de compétitivité, n'était pas adapté à un club comme l'OM selon les dirigeants. Et on a appris ces dernières ces derniers jours là que Koné eh bien a été poussé vers la sortie. Voilà, ils ont un peu décelé ce que décrit Alex à l'instant sur Eli Wahi. Peut-être qu'il n'y avait pas ce caractère pour s'imposer. Et puisqu'on parle de Neil Maupay, lui au contraire il a vraiment séduit par ce leadership, cette mentalité de battant, de vainqueur, exemplarité à l'entraînement. Donc il y a vraiment un gouffre entre les deux profils, quoi.
Alors, puisqu'on est dans le mercato, hein, Eli Wahi est donc en partance, hein, pour Francfort au moment où on enregistre ce podcast. Le jeune Sternal est parti à Anderlecht, alors il avait peu joué jusqu'ici. Moumbagna vient de reprendre l'entraînement, il revient de blessure. On rappelle que l'OM a plus que le championnat puisqu'ils sont éliminés en Coupe de France. Et pourtant, il a fait savoir en conf d'avant-match avant d'affronter Nice, Roberto De Zerbi, il veut remplacer Eli Wahi, Flo. C'est-à-dire, il perd un attaquant, mais il tient à en recruter un autre quand même.
Alors, il pouvait pas être plus clair. Au moins, c'est évident que Marseille veut un attaquant. Parce que, oui, la question se posait malgré tout avec Neil Maupay, qui est globalement le titulaire, là. Robinho Vaz, alors ça reste un jeune joueur, hein, on va pas lui faire porter la responsabilité d'être le super sub sur chaque rencontre, hein, mais effectivement il y a aussi Jonathan Rowe qui peut entrer en jeu dans cette position. Alors Moumbagna, va falloir être patient, il vient de retoucher le ballon à l'entraînement. Honnêtement, je pense qu'il retrouvera la compétition qu'au mois de mars, enfin voilà, au printemps. Donc la fin du championnat c'est mi-mai, voilà, faut pas attendre énormément de temps de jeu pour Moumbagna. Mais c'est vrai que la question se posait et il a été très, très cash. Il a dit on est l'OM, on se doit d'avoir un attaquant et un attaquant de haut niveau. Je m'attends à avoir un top attaquant avant la fin de l'hiver. En gros, on m'a jamais menti, on m'a toujours dit, on m'a toujours annoncé ce qui allait être fait. Et là, en gros, on m'a promis que si Wahi partait, il y aurait un attaquant. Je l'ai relancé en fin de conférence de presse en lui demandant, bon, le marché hivernal, parfois c'est compliqué, est-ce que vous êtes prêt à faire la saison sans recrue? Il a dit, Marseille va trouver un attaquant. Voilà, point à la ligne, question suivante. Donc, pour lui, dans son esprit, c'est très très clair. Et on verra quel joueur ce sera. Il y a quelques noms qui sont ressortis là ces dernières heures, notamment Amine Gouiri pour peut-être un départ de Koné en prêt vers Rennes. On verra, on suivra tous ces dossiers là, mais dans son esprit, quoi qu'il arrive, à Roberto De Zerbi, il veut un remplaçant et un très bon remplaçant à la pointe de l'attaque marseillaise.
Alors justement, avant cette affirmation de De Zerbi, avant le match contre Nice, Alex, il y a pas mal de noms, hein, qui circulent depuis plusieurs jours comme potentiel futur attaquant de l'OM. Pour en revenir à Maupay, qui doit s'en inquiéter de ça justement?
Sur la déclate de Zerbi, j'ai été un poil étonné. Parce que des infos que nous, on peut avoir, que je peux avoir, c'est, l'idée, c'était, on récupère de l'argent, puisque l'argent, puisque Wahi, c'est une opération blanche, on récupère de l'argent, mais les dirigeants, ils veulent pas se tromper. Ils veulent pas refaire une Vitinha, ils veulent pas prendre un attaquant à la dernière minute du mercato d'hiver, parce que les opportunités, elles sont moins nombreuses que l'été.
Donc, de ce que j'avais cru, on m'a dit la même chose. Alex.
Voilà, exactement. De ce que j'avais cru comprendre, moi, l'idée c'était quoi qu'il arrive, il y aura un remplaçant à Wahi. Mais la question c'est de savoir, est-ce qu'on trouve un joueur qui vient à l'OM maintenant pour être l'attaquant des prochaines années, auquel cas on dépensera les 25 millions d'euros, ou peut-être un peu moins, ou peut-être un peu plus, voilà. Ou est-ce qu'on trouve un joueur qui viendra jusqu'à la fin de saison, peut-être en prêt, pour entre guillemets concurrencer Maupay et faire le nombre et voir ensuite si on le garde ou si on le garde pas. Moi, j'étais plutôt dans cette optique-là. C'est pour ça que quand De Zerbi parle de top player, bon, évidemment, il peut pas dire attention, bon, on va le remplacer numériquement, mais par un joueur de seconde zone, il va pas dire ça. Mais je m'attends davantage à voir arriver un joueur dit de complément entre guillemets.
Bah surtout qu'il reste une semaine là, je veux dire, ils ont plus.
Voilà, ouais. Non mais ils ont une semaine et puis après il faut que. Alors évidemment, il peut y avoir des opportunités, mais elles sont chères. Et aujourd'hui, elles sont pas énormes non plus, alors que l'été, il y a plus de possibilités. Donc ouais. Moi j'avais cru comprendre ça. Ouais, exactement comme dit Florent, pas de panic buy et pas de joueurs qu'on va. On va pas se retromper une deuxième fois après s'être trompé l'été dernier sur Wahi, parce que le marché d'été est bien plus. Il y a plus d'opportunités, il y a plus de facilité à recruter l'été prochain que maintenant. Maintenant, il y a peut-être aussi des joueurs qui vont arriver en fin de contrat. Exactement.
Et que tu as l'argent qui va avec.
Exactement.
Bon, c'est vrai qu'on a.
Exactement.
Voilà. On a eu les mêmes retours, mais après, peut-être que dans sa dette-là, il ne veut pas forcément dire « je veux l'attaquant qui sera avec moi sur les 2, 3, 4 prochaines saisons ». Peut-être que lui estime simplement que Marseille ne peut pas se permettre d'avoir… Voilà, que Marseille peut pas se permettre de faire la fin de saison avec uniquement Nil Mopé comme vrai neuf de métier, alors que lui était arrivé au départ et ça a été clairement annoncé dans la peau d'un numéro 2. Alors très bien, il a prouvé qu'il était, que c'était un
attends,
un
juste
bon
parenthèse
joueur,
mais... là-dessus, franchement Flo, quand on réécoute la décla de De Zerbi au lendemain de l'arrivée de Mopé, donc le 31 août, il te dit quand même que c'est un joueur qu'il adore, qu'il suivait en PL. Franchement, moi j'ai plutôt l'impression qu'à l'époque, il sait déjà que Wai, ça va être compliqué, qu'il essaye de couver Wai comme il l'a fait pendant plusieurs mois, mais que dans son esprit, il sait que Mopé, c'est le joueur qui, niveau caractère, pour en venir à ça, et même profil, ce sera son numéro 1. C'est le numéro 1 dans son cœur dès qu'il arrive, Mopé.
Je sais pas, je pense qu'il avait besoin quand même d'être rassuré sur son niveau, sur sa forme, sur son intégration au système de jeu, parce que malgré tout avec Roberto De Zerbi, c'est pas un rôle d'attaquant totalement classique, hein. Nil Mopé l'a expliqué, il passe plus de temps dos au jeu qu'autre chose à scoltiner des Palois, des Diakités,
qu'on embrasse d'ailleurs, voulez, que lui aussi
ou,
embrasse,
ou la charnière centrale de Monaco qui avait quand même aussi souffert face à lui, donc il avait peut-être besoin de voir. Je pense qu'il était très content de son arrivée, mais que à l'époque, honnêtement, et j'espère que c'est le cas, ils espéraient que Eli Wai, voilà, retrouve son niveau qui avait été le sien lors de sa grosse saison à Montpellier. Donc Marseille avait espoir que ça se passe comme ça.
Ouais.
Après, Nil Mopé, il a su se frayer un chemin, profiter aussi de Wai qui faisait pas l'affaire. Et honnêtement, moi, je suis pas forcément surpris au final que Roberto De Zerbi, enfin peut-être qu'il remarque, et c'est plus un sentiment qu'une info d'ailleurs, je pense qu'il remarque, et on l'a vu ces derniers matchs, que Nil Mopé est un très bon joueur, mais si tu le mets titulaire à chaque rencontre, en gros tu lui fais peser cette responsabilité d'être le neuf de l'OM, etc., au bout d'un moment il va peut-être fatiguer. Lui c'est un joueur qui donne énormément, Nil Mopé, physiquement il va peut-être à un moment donné avoir un coup de moins bien, et il se dit ça va, on va pas, on est l'OM, sa phrase de dire on est l'OM, c'est qu'on va pas non plus compter sur
lui,
un gamin de 17 ans. Non mais un gamin de 17 ans en numéro 2, pour aller chercher la deuxième place en Ligue des Champions, et éventuellement le jour où tu te rapproches parce que Paris est moins bien à 7-6 points, on sait jamais, ça peut arriver, et te dire ça va, on va jouer la course jusqu'au bout alors que t'as pas le matos. Donc je pense qu'il veut vraiment être solide avec un autre attaquant.
Tiens, juste pour finir, puisqu'on évoquait notamment le mercato d'été, alors on parle beaucoup de qui sera l'attaquant de l'OM la saison prochaine, mais la question elle va se poser aussi vis-à-vis de Nil Mopé. Je rappelle qu'il est prêté par Everton jusqu'à la fin de la saison, que De Zerbi avait affirmé qu'il aimerait l'avoir avec lui tout le temps qu'il resterait à l'OM, on l'a entendu tout à l'heure. Est-ce que vous avez des infos sur les intentions de l'OM vis-à-vis de Nil Mopé, qui est sous contrat avec les Toffees jusqu'en 2026, alors qui pourrait être relégué en Championship, ce qui pourrait peut-être faciliter une éventuelle vente de Mopé, qui en plus les a taillés sur les réseaux sociaux, enfin bref, mais vous avez des infos sur ce que compte faire l'OM vis-à-vis de Mopé?
Alors tu sais, moi je laisse Alex répondre, je donne juste un conseil à Nil Mopé, il peut ressortir la petite décla de De Zerbi, où il dit moi c'est Mopé jusqu'à ce que je sois entraîneur de l'OM, etc. Rappeler que l'obligation d'achat qui va passer, je crois, à 6 millions, c'est pas non plus énorme pour un attaquant qui te rend de fiers services, voire qui fait de très bons matchs. Et puis après, il a tweeté sur Everton. Donc à un moment donné, je pense que Everton, de toute façon,
je rappelle, hein, il a tweeté en gros, quand je suis pas bien, je regarde le résultat d'Everton, voilà. Et tout de suite je retrouve le moral, quoi.
Donc au moins la question de savoir si lui pourrait revenir à Everton, quoi qu'il en advienne du club anglais, bon, la question se posera pas. Honnêtement, moi je pense qu'il restera à l'OM et que Marseille est très satisfait de lui, aussi dans l'état d'esprit. Je disais, il s'est fondu dans le collectif, il est important dans le vestiaire. Moi je le vois rester, mais là c'est la vérité du mois de janvier. Et puis j'avais dit, je laissais Alex répondre. Donc
tu as répondu pour lui, c'est sympa.
C'est,
ça.
C'est exactement ce que j'allais te dire. Bon, moi j'ai pas d'infos particulières à ce sujet, mais même si on en avait, c'est la vérité du mois de janvier. Et à l'OM, on sait que la vérité du mois de janvier, c'est pas du tout la même que celle du mois de juin, surtout ces dernières années, quoi. Les mouvements de joueurs, les rotations, elles sont quand même énormes en quantité. Donc même si aujourd'hui l'OM se disait ben on va le conserver, il est pas sûr que pour X ou Y raison en juin ce soit vraiment le cas. Après c'est sûr, évidemment, je le vois pas retourner là-bas. Je pense qu'il est en train de faire ce qu'il faut pour que l'OM le conserve quand même sur le terrain. Son bilan est globalement très bon. Il remplit la mission qu'on lui demande. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison que l'OM ne fasse pas tout pour le conserver. Et l'OM va le conserver, à mon avis. Mais bon, Encore une fois, il y a tellement eu de cas par le passé en janvier qui finalement ont changé en juin. Je veux dire, Mbemba, c'était le taulier. 6 mois plus tard, il était poussé vers la sortie. Donc bon, à voir quoi.
Non, et j'ajoute juste un truc, c'est que Neil Mopay se sent terriblement heureux à Marseille. Il est vraiment ravi d'être dans ce club, dans cette ville, de retour en Ligue 1, de pouvoir être naturel avec son franc-parler, son côté chambreur, son caractère, de le faire en plus en France et en Ligue 1. Voilà. Ça lui avait un petit peu manqué. Donc être épanoui, c'est important. Je pense que ses coéquipiers ou tout le vestiaire peut le confirmer, hein, que c'est un joueur qui a la joie de vivre en lui. Donc c'est important qu'il se sente bien, et je pense qu'il n'y a pas un énorme enjeu financier. C'est pour ça que là maintenant je me dis qu'il n'y a pas trop de doutes sur son avenir, mais on verra au mois de juin ou juillet prochain.
Et bah merci beaucoup Flo Germain, à très vite. Merci Alex Jacquin, patron d'Espoir de la Provence.
Merci
les gars, merci Arthur Robert à la production. Allez. Merci Daniel Torres à la réalisation. Bisous, prenez soin de vous.
RMC After Marseille.